Bonjour, bienvenue à cette série sur sept principes bibliques de gestion financière. Nous allons voir aujourd'hui le troisième principe biblique qui est celui d'offrir à Dieu les prémices de tous nos revenus. Dans le culte que l'on rend à Dieu, il y a un principe universel, valable aussi bien pour l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et ce principe, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9, les Proverbes qui nous enseignent la sagesse qui doit guider notre vie. Et dans Proverbes 3, 9, je lis, il est écrit: Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. C'était la traduction en français courant. Dans la traduction Parole de vie, il est dit: Donne-lui la première part de tes récoltes. Et dans la Bible à la Colombe, il est dit: Donne-lui les prémices de tout ton revenu. Donc la sagesse nous invite à honorer Dieu, à lui rendre un culte en lui offrant la première part de tous nos revenus. Pourquoi? Bien pour lui dire notre reconnaissance, parce que nous savons que tout nous vient de lui et nous voulons l'honorer pour sa bonté à notre égard. Tous nos revenus, tout ce que l'on reçoit de Dieu, que ce soit en argent ou autrefois c'était en nature, fruits, céréales, légumes, animaux, eh bien la première part, est quelque chose qui appartient au Seigneur. Ça fait partie d'honorer le Seigneur, de la lui donner. Remarquons au passage que ce commandement, honore le Seigneur en lui offrant la première part de tous tes revenus, ce n'est pas un commandement qui se trouve dans la loi de Moïse, c'est dans la loi de la sagesse. Donc toi qui m'écoutes, si tu veux gérer tes finances selon la parole de Dieu, si tu aimes et si tu respectes Dieu, la première chose à laquelle tu es appelé avec tes revenus, c'est d'en offrir en reconnaissance à Dieu, dans un culte à Dieu, d'en offrir la meilleure part au Seigneur, la première part au Seigneur. Dieu doit toujours être le premier servi. Dans l'Ancien Testament, où il pratiquait ce conseil de sagesse, on lit dans Exode 22, verset 28, Dieu qui dit: Vous devez m'apporter sans retard la part qui me revient de vos moissons, de vos vendanges. Voyez-vous, vous savez une des différences entre un juif et un païen, c'est la circoncision. La circoncision est un signe d'appartenance à Dieu. On a ôté le prépuce, on a ôté la part qui revenait à Dieu. Eh bien, de même, à la différence entre des revenus païens ou des revenus chrétiens, c'est que des revenus chrétiens, on doit avoir ôté de ces revenus la part qui revient à Dieu, qui lui revient dans notre culte que l'on lui rend. C'est la circoncision financière. Les prémices, pas le prépuce, mais les prémices ont été ôtées pour Dieu. Donc les revenus des chrétiens, des enfants de Dieu, doivent être des revenus circoncis, c'est-à-dire des revenus qui ont fléchi les genoux devant Jésus. Alléluia! Quel privilège d'avoir des revenus qui se sont prosternés devant Jésus. Parce que quand on se prosterne devant lui, eh bien, nos revenus sont sanctifiés. Alors, on voit que cette pratique de honorer Dieu en lui offrant la première part de nos revenus, on la voit attestée dans l'Ancien Testament. C'est la fameuse pratique de la dîme. Mais même c'était avant la loi de Moïse. On voit par exemple Jacob qui dit qu'il donnera à Dieu 10% de tout ce que Dieu lui accordera. On le lit dans Genèse 28, verset 22. On voit Abraham qui, quand il revient d'une victoire militaire, il va offrir 10% de tout son butin à Dieu. On le voit en Genèse 14, c'est à Dieu au travers du prêtre Melchizedek. Donc on voit que même avant la loi de Moïse, c'était comme inscrit dans le cœur humain, les gens avaient souci pour remercier Dieu de lui offrir une part, un dixième de tout ce qu'ils avaient. Cette intuition, eh bien, nous savons qu'elle vient pas de n'importe où. On le lit dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 15, que quand les hommes font ce que la loi de Moïse prescrivait, eh bien, ils montrent par là que cette loi était écrite dans leur cœur et que leur conscience en rendait témoignage. Donc avant même que Dieu donne la loi de Moïse, ce principe d'honorer Dieu en lui offrant la dîme de nos revenus, eh bien, c'est inscrit dans le cœur de l'être humain. Et plus tard, donc, la loi de Moïse va confirmer ce commandement de la sagesse. Et aussi, la loi de Moïse va légiférer sur quel est le montant de cette première part, de ces prémices qu'on offre à Dieu. Et la loi de Moïse va fixer la barre à un dixième de tout ce qui rentre dans nos caisses. Alors, je sais qu'il y a un débat dans la loi de Moïse. Y avait-il une ou plusieurs dîmes? On ne va pas traiter cela maintenant. Vous pouvez regarder dans les écrits. Il y a une série sur la gestion des finances. Et là, vous trouverez tous les textes aussi à ce propos-là. Alors, on sait, ce qu'on sait, c'est que la dîme que les gens offraient dans le culte à Dieu, eh bien, elle était utilisée. Dieu dit, c'est ma part, mais moi, je la donne aux Lévites. Les Lévites, c'était ceux qui étaient appelés à travailler à temps plein dans le temple pour le culte de Dieu. Donc, eux n'avaient pas de revenus professionnels. Et ils vivaient, en fait, ces dîmes que les gens consacraient à Dieu. On le lit dans Lévitique 27, 30, on devra consacrer au Seigneur un dixième des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui est réservée à Dieu. Verset 32, en ce qui concerne les bœufs, les moutons, les chèvres, une bête sur dix est marquée pour être consacrée au Seigneur. Donc tous les revenus, là c'était les revenus en nature, donc la dixième appartient à Dieu. Et Dieu dit, on le lit dans Nombre 18, verset 21, c'est le salaire que j'accorde aux Lévites pour le service qu'ils accomplissent à la tente de la rencontre. Je leur donne en partage cette dîme, c'est-à-dire un dixième de tout ce qui est produit en Israël. Donc, on voit dans ce commandement-là que la première fonction de la dîme, c'était de pourvoir aux besoins de ceux qui étaient à plein temps dans le service de Dieu, appelés dans le plein temps service de Dieu. Mais nous voyons aussi, dans Deutéronome 14, que aussi la dîme pouvait, une fois que les Lévites avaient reçu leur salaire, être utilisée pour nourrir les pauvres. Alors ce qu'on voit, c'est intéressant dans l'Ancien Testament, donc ça sert la dîme à financer des revenus pour des personnes, mais l'entretien du bâtiment, parce qu'il y avait dans l'Ancien Testament un temple, eh bien c'était pas, l'entretien n'était pas pris sur la dîme, c'était une taxe annuel. Vous pouvez le lire dans Exode 30 et on le lit aussi dans l'évangile de Matthieu chapitre 17 que Jésus, quand il arriva à Capernaum, ceux qui percevaient cette taxe pour le temple s'approchèrent de Pierre et demandèrent « Est-ce que votre maître paie l'impôt du temple ?» Ce n'est pas la dîme, c'est l'impôt pour l'entretien du bâtiment, le temple. Et donc on sait que c'était financé par une taxe à côté de la dîme. Alors la grande, grande question qui est débattue, ça fait beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, est-ce que nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, sommes-nous soumis à cette loi de Moïse? Eh bien d'abord, j'aimerais dire que ce que Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 20, où Paul dit « Je ne suis pas soumis à la loi de Moïse ». Les chrétiens de la Nouvelle Alliance ne sont pas soumis à la loi de Moïse. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de loi. Paul ajoute, 1 Corinthiens 9, 21, je suis soumis à la loi de Christ. Donc la loi qui fait autorité pour nous chrétiens, c'est la loi de Christ. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la dîme fait partie ou pas de la loi de Christ? Alors, on se rappelle que Christ a dit cette célèbre phrase, payez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Jésus a dit qu'il y avait bien une part que l'on devait à Dieu, comme il y a une part qu'on devait aux autorités politiques, à César. Donc, Jésus a confirmé que c'est juste dans nos finances, de donner à Dieu, de rendre à Dieu la part qui lui revient, cette part par laquelle on l'honore et le remercie pour tout ce qu'il nous donne. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 42, Jésus dit, Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les plantes potagères, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. Ce qu'on voit dans ce passage, c'est que les pharisiens étaient très très scrupuleux dans le paiement de leur dîme, de leur prémisse offerte à Dieu. Ça allait jusque dans les plantes aromatiques, ils prélevaient la dîme pour le Seigneur. Et Jésus ne leur reproche pas de le faire. Il dit, vous faites ça, mais en même temps, vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, l'amour de Dieu. Et il dit, c'est cela ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. C'est-à-dire, Dieu veut qu'on pratique la justice et l'amour, mais sans omettre le reste. Il ne nous a pas dit, le reste, Jésus n'a pas dit, vous pouvez le zapper, c'est fini. Il a dit, c'est ça qui est la priorité, la justice, l'amour, mais on ne doit pas omettre le reste, ce qui est de donner à Dieu la part qui lui revient. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 20, Jésus dit, je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et que les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Donc selon Jésus, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas faire moins bien que dans l'ancienne alliance. Notre justice doit surpasser celle des maîtres de la loi et des pharisiens. Donc on ne peut pas, sous la nouvelle alliance, honorer Dieu en lui offrant des prémices qui sont plus bas que ce que les scribes et les pharisiens offraient. C'est Jésus qui l'a dit. Au contraire, Jésus a dit qu'on est appelé à faire plus, on est appelé à surpasser la justice des scribes et des pharisiens. Donc si notre amour pour Dieu, si notre reconnaissance pour sa bonté, eh bien, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, on peut se poser la question, mais avons-nous vraiment goûté à sa grâce, à toutes ces bénédictions de la nouvelle alliance? Alors je sais qu'il y a des gens qui disent aussi, oui, mais les Lévites, puisque ça servait en premier la dîme à payer les Lévites, mais il n'y en a plus, le culte lévitique est aboli. Et c'est vrai. L'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 7, 12 que lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement un changement de loi. Mais ce que le Nouveau Testament enseigne, le sacerdoce lévitique n'existe plus. Mais il a été remplacé par un autre sacerdoce qui est encore meilleur, qui est la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Et Hébreux 7, verset 17 dit que Jésus est prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi une prêtrise. Et dans l'Épître aux Hébreux, il rappelle que Abraham a offert la dîme de son butin à ce prêtre Melchisédek. Et il est dit que nous, on était dans la semence d'Abraham, et donc que aussi cette même chose, on est encouragé, la même chose par rapport à notre prêtrise à nous sous la Nouvelle Alliance, d'honorer notre grand prêtre en lui donnant aussi les prémices de tout ce que Dieu nous accorde. Et vous savez, il n'y a plus de Lévites dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, mais il y a des ouvriers de Dieu. Il y a des gens dans le Nouveau Testament appelés comme les Lévites à ne pas avoir de travail et à ne s'occuper qu'à plein temps de l'œuvre du Christ. Alors, quel plan Dieu a-t-il prévu pour eux, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent élever leur famille, qu'ils puissent se déplacer? Dans Matthieu 10, verset 10, Jésus a dit aux ouvriers qu'il envoie, ne prenez pas de sac pour le voyage, emportez un seul vêtement, ne prenez pas de sandales ni de bâtons. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Donc l'ouvrier ne doit pas produire, il doit recevoir sa nourriture. Et Paul dit la même chose que Jésus dans 1 Corinthiens 9. Je lis à partir du verset 7, Paul écrit « Avez-vous jamais entendu dire qu'un soldat serve dans l'armée à ses propres frais, ou qu'un homme ne mange pas du raisin de la vigne qu'il a plantée, ou qu'un berger ne prenne pas du lait du troupeau dont il s'occupe? Mais je ne me fonde pas seulement sur des exemples tirés de la vie courante, dit Paul. La loi de Moïse dit la même chose, c'est écrit dans cette loi, vous ne mettrez pas une muselière à un bœuf qui foule le blé. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? N'est-ce pas en réalité pour nous qu'il a parlé ainsi? Assurément, cette parole a été écrite pour nous. Il faut que celui qui laboure et celui qui bat le blé le fasse avec l'espoir d'obtenir leur part de la récolte. Nous avons, dit Paul, semé en vous une semence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels? Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple, que ceux qui présentent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. Et bien de même, dit Paul, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. C'est exactement le même principe que dans l'Ancienne Alliance. Dieu a prévu que les ouvriers qu'il appelle à temps plein dans son champ, qui n'ont pas de travail pour subvenir à leurs besoins, doivent pouvoir vivre de leur ministère, vivre de leur activité. Et même dans Galates 6, 6, il est dit que celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Donc les chrétiens qui sont au bénéfice des ministères, eh bien, ils doivent partager une partie de leurs biens avec ceux qui sont dans le ministère pour qu'ils puissent vivre. Et dans 1 Timothée 5, verset 17, il est dit que les anciens qui dirigent bien l'Église méritent même un double salaire, surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. En effet, l'Écriture déclare l'ouvrier a droit à son salaire. Donc, pour résumer, que dit la loi de Christ par rapport à la dîme? 1. Que nous devons continuer à honorer Dieu, à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, en prélevant la meilleure part de tous nos revenus. Ça fait partie de la loi du Christ. 2. On a lu que la loi du Christ prévoit que nous devons rémunérer ces ouvriers, les ouvriers qu'il appelle dans le ministère à temps plein. 3. On a lu que Jésus dit que les commandements de Dieu sont sous la Nouvelle Alliance, ne sont pas revus, ne doivent pas être revus à la baisse, mais à la hausse. Et 4. On a vu qu'il revient à chacun, selon sa situation, selon ses moyens, selon les saisons de sa vie, de fixer le montant de ses prémices, mais que dans la logique de tout ce que nous avons vu, que 10% est un minimum. Zaché, lui, par exemple, on sait qu'il a fixé la barre beaucoup plus haut, à 50%, il donnerait 50% de tous ses revenus. Donc, offrir à Dieu les prémices de tous nos revenus, au minimum 10%, puisqu'on est appelé à surpasser ce que faisaient les croyants de l'Ancien Testament, ça fait partie de la vie de base d'un disciple de Jésus, comme la prière, comme la lecture de la Bible, comme la fréquentation d'une communauté. Quand on étudie l'histoire de l'Église, selon les pères de l'Église comme Origène, Jérôme, Chrysostome, on voit qu'ils pratiquaient la dîme, ils enseignaient la dîme. Les spécialistes de l'histoire de l'Église nous disent que ce prélèvement de la dîme a été largement pratiqué dans l'Église depuis les temps apostoliques. Pour conclure, donc, nous voyons que la dîme n'a pas été instituée, mais qu'elle a été incorporée dans la loi de Moïse, et que le principe de prélever une part de nos revenus pour honorer Dieu, ça se situe hors du temps, que ça concerne chaque croyant qui rend un culte à Dieu, quelle que soit l'époque où il vit, quelle que soit la dispensation où il se trouve et le pays où il se trouve. Et pareil que pour l'Ancien Testament, c'est avec ces prémices qu'on va payer un salaire aux serviteurs de Dieu et aussi soutenir les nécessiteux dans l'Église. Donc le but de la dîme n'est pas d'enrichir certains, mais de permettre à chacun d'avoir de quoi vivre. Alors, est-ce qu'il y a des conséquences à la non-obéissance de ce principe divin? Bien oui, on le lit dans l'Ancien Testament, vous pourrez le lire dans mon écrit sur la gestion des finances. Malachi 3 nous dit qu'on s'expose au malheur quand on n'honore pas Dieu comme on doit le faire. Et aussi, on voit qu'il y a une souffrance chez les Lévites, il y a une souffrance chez les serviteurs de Dieu aujourd'hui quand les chrétiens ne sont pas fidèles dans ce culte financier qu'on doit rendre au Seigneur. Et je prie vraiment qu'on puisse prendre conscience et qu'on ait assez de foi et de liberté pour pratiquer ce principe de proverbe « Honore le Seigneur en lui offrant la première part de tous tes revenus ». Qu'il y ait vraiment un réveil financier aussi qui permette que l'œuvre de Dieu ne soit pas freinée, empêchée à cause de manque de finances. Dieu a prévu un plan. Son plan comptable est parfait. Ce n'est que nous, si nous désobéissons, qui pouvons mettre à mal les choses. Alors je sais que beaucoup de cette première part qui devrait revenir à Dieu va en fait dans la poche des gens, que les gens l'utilisent pour leurs besoins personnels. Et je trouve ça triste, la Bible nous apprend que la dîme est une chose kodesh, c'est-à-dire une chose qui est sainte, une chose qu'on ne doit pas s'approprier, c'est la part qui appartient à Dieu, et on doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais aussi j'aimerais vous dire, bien-aimés, que la pratique de la dîme, c'est aussi l'arme secrète de Dieu pour porter un coup fatal à Mammon. On a vu que la raison pour laquelle beaucoup de gens ne donnent pas la dîme de tous leurs revenus, c'est parce qu'ils sont encore sous le contrôle du dieu argent, liés par le dieu argent Mammonas. Et quand quelqu'un est capable de donner 10% de tout ce qui Dieu lui envoie, sa Mammonas ne peut pas le supporter. Ça le rend fou de rage. Et quand on fait cela, c'est comme une déclaration ouverte d'émancipation par rapport à Mammon. Et si tu n'es pas libre de faire cela avec joie, avec zèle, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas encore libre vis-à-vis de ce Dieu argent. Et aussi, la pratique de la dîme est l'arme secrète de Dieu pour nous établir dans la foi du moineau. Parce que rares sont les chrétiens qui ont un excédent de 10% dans leur budget. Beaucoup de gens disent oui, je donnerai ma dîme quand j'en aurai le moyen de le faire. J'ai pas les moyens de prélever 10% pour Dieu parce qu'à la fin du mois, ça va me manquer, j'aurai pas ce qu'il me faut. Bien-aimé, c'est pour cela que Dieu a dit par la bouche du prophète Malachie, mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule fois dans la Bible où ça nous est permis de mettre Dieu à l'épreuve. Et si nous le faisons, Dieu a dit qu'il ouvrirait pour nous les écluses des cieux. Il ferait entrer le miracle surnaturel dans nos finances. Et le fait que tu ne puisses pas le faire, mais que tu le fasses par obéissance et dans la foi. Tu le fais volontairement, pas parce qu'on t'y oblige, tu le fais par choix personnel. Mais le fait de le faire, eh bien, c'est que tu choisis de croire en Dieu. Tu mets ta foi en Dieu. Tu sais que, voilà, mon Dieu qui me demande de le faire, eh bien, j'ai confiance, j'ai la foi du moineau, que d'une manière ou d'une autre, je ne souffrirai pas en donnant ma dîme, mais qu'au contraire, j'ouvrirai les écluses des cieux sur mes provisions et celles de ma famille. As-tu libéré, mon frère, ma sœur, cette bénédiction surnaturelle de Dieu sur tes finances? Tu en as tellement besoin. Et en ne le croyant pas, en n'osant pas faire le pas, tu retiens cette bénédiction que Dieu veut t'accorder. Dieu dit que les gens avares sont des gens malheureux et que les gens généreux sont des gens joyeux parce qu'il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mes amis, si vous avez à cœur d'être un serviteur fidèle, le premier niveau où Dieu va éprouver votre fidélité, c'est dans le domaine des petites choses. Parce que Dieu a dit, c'est un principe spirituel, si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous serons si fidèles dans les grandes. Mais il a dit que si nous sommes infidèles dans les petites choses, nous serons si infidèles dans les grandes. Quand on n'est déjà pas fidèle, juste au niveau financier, c'est un indicateur pour Dieu qu'il ne peut, il peut peut-être pas nous confier de plus grandes richesses. Parce que l'argent, c'est la plus petite des richesses que Dieu nous donne. Je vous ai partagé ce que je croit, découvre dans la parole être un principe divin, le troisième principe de la gestion de nos finances. Maintenant, il faut obéir à ce principe librement et sans contrainte. Il ne faut pas le faire sous la manipulation, il ne faut pas le faire par la peur, mais le faire avec joie, car il est écrit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Et si ton cœur n'a pas envie de prélever ses prémices, n'a pas envie de donner sa dîme, ne le fais pas. Ne fais pas non plus donner ta dîme parce que tu as la crainte d'être maudit. Il y a des gens, ils donnent leur dîme juste par peur d'être maudit. Non, non, ne fais pas ça par peur. Fais-le par amour pour Dieu. Fais-le, donne-le pour honorer Dieu. Tu as compris que c'est lui ta source. Et quand tu lui redonnes, c'est juste pour lui dire merci. Amen, amen. Ne donne pas non plus ta dîme par cupidité. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent leur dîme parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils aiment l'argent et ils ont compris que donner sa dîme ouvre les écluses des cieux. Et c'est pour en avoir plus qu'ils donnent leur dîme. Ça ne doit pas être une motivation juste. Si tu donnes ta dîme, tu dois la donner sans calcul, juste parce que tu aimes Dieu et tu es reconnaissant. Et je voudrais dire aussi que si tu es marié, il faut donner la dîme avec l'accord de ton conjoint, sinon vous allez avoir des embrouilles dans votre couple. Si tu as des revenus personnels propres à toi, tu les gagnes, tu peux informer, mais tu es libre de faire avec ton argent ce que tu juges bon. Mais l'argent du foyer, tu ne peux pas donner la dîme sur ces revenus-là sans l'accord de ton conjoint. Amen. Voilà, c'était un long enseignement. Il y a encore même davantage de points que je n'ai pas eu le temps de couvrir, mais que vous retrouverez sur ce site dans les écrits dans la série Les gestions des finances. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour les autres principes bibliques de gestion. Ils seront plus courts. Voilà, que Dieu vous fasse du bien. À bientôt.